On est au lieu d'art contemporain, la halle de Pontant-Royan, où va bientôt avoir lieu le vernissage de la prochaine exposition, plus exactement samedi 7 octobre à 18h. Et l'exposition elle-même aura lieu du 10 au 30 octobre, du 10 octobre au 30 décembre. Giulia Turati, bonjour.
Bonjour.
Et donc l'artiste Catherine, de son nom d'artiste Matt Coco. Bonjour Catherine, ou bonjour Matt.
Bonjour.
Alors Giulia, c'est reparti pour une nouvelle aventure.
Oui, exactement. L'exposition de Matt Coco termine, on va dire, l'année 2017, la programmation de l'année 2017, au moins dans le centre d'art, parce que il y a une exposition qui allait voler. Québécois de l'exposition de cet été, qu'on a eu cet été en France, qui ouvrira à la fin du mois. Donc, il y a quand même encore un petit épisode pour 2017 pour les expositions de la Halle. Mais effectivement, cette exposition, dont le titre est Une case au dîner, bien, termine cette année et clôt aussi de manière assez symbolique la thématique qui plus ou moins avait été articulée sur toute l'année, qui c'est celle de l'entre-deux. Voilà. Donc on en parlera après plus en profondeur avec l'artiste.
In caso di nebbia, en cas de brouillard,
Oui.
Est-ce qu'on peut dire un petit peu rapidement de quoi il s'agit du point de vue de la curatrice avant d'entendre celui de l'artiste?
Oui, alors en effet, on pourrait penser que c'était moi avoir choisi ce titre en raison de voilà de la langue de voilà du titre, Une case au dîner. Bien, je répète parce que ça me fait plaisir de le redire.
Et puis que c'est toujours agréable d'entendre parler italien avec le vrai accent italien.
Voilà. Mais c'était effectivement une proposition que Catherine m'a fait. Je pense il y a quand même assez longtemps. C'est venu assez vite dans tes recherches pour cette exposition que quand même on prépare depuis plus d'un an parce qu'on a commencé à l'envisager à l'été dernier, 2016 donc. Je dirais oui, voilà, plutôt. Tu avais, c'était peut-être quelque chose qui t'avait frappé à la fois dans la sonorité et puis avec des connotations symboliques qui pouvaient être reliées à ton travail, à savoir qu'effectivement une case au dîner, bien c'est juste un très banal panneau signalétique qu'on trouve très souvent sur les routes et autoroutes d'Italie pour signaler un danger, un cas de brouillard, voilà, mais qui effectivement peut-être pour un Français à d'autres voilà, un truc assez banal pour un Italien ouvre au contraire d'autres un imaginaire autre pour un étranger.
Et tu disais donc que l'exposition est en préparation depuis plus d'un an. On a parfois l'impression, quand on est un peu extérieur et qu'on vient voir une exposition, que c'est un accrochage, enfin voilà, qu'il suffit que l'artiste arrive avec des œuvres et puis ça se fait, ce qui n'est pas vraiment le cas. En fait, il y a un réel travail, il y a un travail qui se fait sur place aussi quand il s'agit notamment d'art contemporain.
Oui, c'est vrai, c'est particulièrement vrai pour l'exposition des Mat Coco parce qu'il y a beaucoup d'installations qui sont faites in situ, donc qu'en entrant soit des vraiment littéralement créées dans l'espace et qui ne dureront en tout cas dans cette forme-là que le temps de l'exposition à la halle. Mais après, c'est vrai aussi que pour cette exposition, la totalité des œuvres, sauf des toutes petites exceptions, ont été produites pour cette finalité-là, pour cette période de démonstration à la halle. Donc effectivement, voilà, on ne crée pas en 2 jours, on n'articule pas un projet si complexe en très peu de temps. On a la chance des fois, comme voilà, comme c'est le cas, d'avoir une proximité géographique, ce qui permet aussi d'avoir des échanges directs plus assidus, parce que étant tous les deux sur Lyon, on se voyait souvent à l'atelier, alors que dans d'autres cas, c'est plus des des rendez-vous plus éloignés d'Altan ou par Skype, donc ça enlève un peu ces côtés effectivement de être témoin direct de la création qui s'est créée. Donc oui, mais en général, même quand c'est une exposition de près, d'œuvres déjà réalisées et souvent déjà exposées ailleurs, non, ça se fait pas en une nuit, non.
Et Matt Coco, donc, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps?
Cette exposition, elle a plusieurs entrées, en fait. C'est pas une thématique, c'est une recherche, c'est vrai, qui se travaille depuis un moment, des préoccupations ou des interrogations que je me pose depuis un certain moment. C'est vrai qu'après, moi, je pars... le titre, il a été trouvé assez tôt. Je pars souvent du titre. Alors, non pas que j'ai pas une production qui est indépendante de ce titre, mais dans mes préoccupations, une caso di nebbia, c'était à plusieurs titres assez important, parce que dans cette signalétique que j'ai vue sur l'autoroute, peut-être pour aller à Milan, je sais plus... J'ai trouvé ça déjà très sonore, parce qu'en fait, une caso di nebbia, effectivement, pour quelqu'un qui n'est pas italien, c'est une sonorité avant tout. C'est un langage qui perd une espèce de sens commun, ordinaire, un peu usé par, et qui prend toute sa beauté sonore. Effectivement, la nebbia, moi, ça m'a fait penser à la nimbe, à quelque chose de très romantique, très poétique par rapport au paysage. L'idée aussi de la signalétique dans le paysage, ça marque une sorte de poésie ou d'événement qui s'annonce. En l'occurrence, moi, quand j'ai vu ce panneau, il faisait beau. Donc, j'imaginais qu'à cet endroit-là, j'ai supposé qu'il y avait fréquemment du brouillard. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'il y ait ces mots qui annonçaient qu'ici, il se passe tel événement naturel auquel je n'avais pas assisté encore. Et il y a aussi beaucoup la question du langage et du paysage dans cette exposition, qui sont parfois liés, parce que je me pose des questions sur la naissance de langage par rapport au paysage, notamment en ayant visité beaucoup de grottes rupestres, par exemple, ou de pétroglyphes, par exemple, dans la vallée des Merveilles, où les langages ont été déployés, ces espèces de proto-langages inventés, certainement dus au contexte géographique, au contexte paysager. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant qu'un paysage puisse générer un langage, un déplacement du corps, une attitude, un certain regard. Une caso di nebbia, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, quelque chose qui nous est amputé du fait qu'on... Moi, personnellement, je ne parle pas l'italien, j'ai compris le sens de ce panneau, mais il y a l'idée de l'élément manquant, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aussi quand on se retrouve dans le brouillard. Quelle attitude on a? Alors, on a le corps qui réagit différemment, on a d'autres sens qui sont mis en branle. Les yeux, du coup, sont moins dans leur capacité à nous diriger. Donc, on va utiliser l'ouïe, on va utiliser l'odorat, et c'est cette mise en branle d'un mécanisme plus corporel, un mécanisme qui vient remplacer un sens qui est un peu disparu, qui commence à apparaître. Il y a beaucoup de pièces dans l'exposition qui sont pas sonores, mais qui parlent du son à travers le silence, justement. Comment parler d'une chose par son absence? Comment parler d'une chose par son contraire ou son paradoxe? Donc, il est beaucoup question des choses par leur disparition. Voilà, un peu comme cette nimbe qui était annoncée et que je n'ai pas vue. Mais je sais qu'elle existe à cet endroit-là. Voilà.
Le langage, ce n'est pas seulement un signifié, c'est aussi un signifiant. C'est ce sur quoi on produit le langage, c'est le matériau. Quand je suis arrivé, vous aviez les mains dans du grès, enfin dans une espèce de pâte. Je ne sais pas quelle est. Et on voit dans la préparation de l'exposition des grands rideaux. La matière a beaucoup d'importance dans ce que vous faites?
Disons que l'élément qui structure, alors j'ai parlé de paysage, de langage, etc., ça, ce sont, on va dire, des branches d'un squelette. Et ici, le squelette, c'est la question de l'empreinte. Donc l'empreinte par capillarité, empreinte par appui ou comment dire, ou quand on marche sur la matière, ce qui est le cas du grès que tu as vu tout à l'heure, d'empreinte de par des traits qui viennent mettre en valeur les aspérités d'un mur, mais aussi par l'effacement, etc. Donc l'empreinte, pour moi, c'est une sorte de langage un peu qui est livré. Alors c'est vrai que je suis très attirée par toutes les recherches archéologiques, paléontologiques. Et qu'est-ce qui se passe entre une empreinte qui est découverte des millions d'années après? Il y a un auteur, un philosophe, Georges Didier Huberman, qui en a très bien parlé dans un livre qui s'appelle « La ressemblance par contact », où il va conceptualiser cet écart, ce qu'il appelle l'inframince, entre l'empreinte qui a eu lieu dans un temps T et sa découverte. Et ce temps entre l'empreinte faite et sa découverte, c'est un temps où il y a eu dépôt d'autres matières, où il y a eu transformation, et c'est cette transformation qui l'intéresse. C'est cet écart entre l'origine et la découverte. Donc le rapport au temps, il est important dans la question de l'empreinte, et notamment par la capillarité. Effectivement, dans la pièce, dans l'exposition, il y a une pièce centrale qui a demandé, elle, du temps, 3 à 4 mois de travail, en culture, en milieu naturel et culture en milieu artificiel. Ça fait partie du titre. Et la capillarité, ben, c'est aussi une question d'aléatoire. Le temps amène cette question de l'aléatoire. Le temps amène cette question de la modification, de la sédimentation, des couches, etc.
Oui, la question de la capillarité est très présente quelque part dans le Vercors, et l'exposition est parfaitement située, et ce que tu dis est parfaitement situé aussi, puisque on est dans un paysage dans lequel il y a effectivement une empreinte qui est très forte, quoiqu'elle ne soit pas forcément tout de suite visible comme ça à l'œil nu et en surface, qui est celle qu'a laissé l'eau dans la profondeur des falaises en s'y infiltrant. Et j'ai envie de te demander si les paysages ont été une source d'inspiration, les paysages à la fois visibles et souterrains. On parlait des cavernes habitées tout à l'heure. Bon, il y a aussi des grottes qui sont totalement inhabitables, et voire même, pour certaines, pas du tout explorées encore. Les précédents invités de la Halle, donc, qui venaient du Québec, avaient qualifié le Vercors de forteresse ouverte.
Oui, ben, en fait, tout ça, c'est une espèce d'entrelacs d'éléments, bien sûr, que le fait qu'il y ait la bourne juste en bas, qu'il y ait ce flux aquatique crée une identité ici, le positionnement géographique de Pont-en-Royan, la présence de la pierre, très important. Tout ça, ça diriger le choix aussi de certaines pièces. La pièce du tissu qui a finalement été travaillée ailleurs, idéalement, j'aurais aimé qu'elle soit travaillée directement dans la bourne, avec une transformation de ce tissu par rapport aux caractéristiques de la bourne. Bon, ça a été plus compliqué, c'est assez compliqué, et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est qu'un élément naturel qui est là tous les jours, dès qu'on veut y déposer quelque chose ou aller contre quelque part cet élément-là, c'est extrêmement difficile finalement d'y arriver. Mais oui, c'est pas une réponse au lieu de Pont-en-Royan, c'est une évocation de cet espace-là, de ce village, de cette géographie.
Julia, est-ce que depuis, ça doit faire 3 ou 4 ans maintenant que je crois que... 2 ans. Ah bah, il s'est passé tellement de choses en 2 ans que c'était tellement riche. Est-ce que tu as le sentiment qu'au-delà de la vocation de lieu d'exposition et de lieu qui fait vivre l'art en le montrant au regard des regardeurs et des regardeuses, Pont-en-Royan et là, enfin, le lieu d'art contemporain peut aussi être un lieu d'inspiration pour les artistes.
Je l'espère, en tout cas. C'est vrai que je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que quand on construit un projet un peu inédit, s'appuyer sur les contextes locaux est inévitable parce que c'est très présent et puis là elle est tellement atypique que je pense qu'on peut pas passer à côté. D'un des cas effectivement l'empreinte sera plus évidente, des autres comme disait Catherine ça reste qu'une évocation qu'un sentiment à un tel moment qui permettra de poursuivre la création. Mais oui, je suis persuadée que si on était ailleurs, on aurait exploré d'autres techniques. Il y aurait eu d'autres œuvres à des produites. Et voilà, c'est inévitable. Après, je voudrais rebondir un peu sur quelque chose qui a été dit par rapport à cette empreinte, à cette trace, à ces doubles temporalités. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant dans le travail de Catherine. C'est aussi comment dire, créer quelque chose qui est donné à interprétation future. Donc ça peut être effectivement le visiteur de l'exposition qui voit une sculpture, qui voit un dessin au mur, qui voit un drapé monumental et qui l'interprète, qui donne sa propre lecture, donc qui part effectivement d'une création imaginaire à lui, mais ça peut être aussi d'autres artistes. C'est le cas d'ailleurs dans Casodiné, bien avec à la fois un danseur et un autre artiste plasticien que Matt Coco a invité à interpréter ces projets de d'exposition, donc par les dessins, d'un dessin animé, voilà, qui a pris la forme finale de l'animation, et puis pour les danseurs qui dansera les soirs de vernissage et laissera vraiment physiquement des traces de son mouvement de ses pieds qui dansent sur de la terre. Donc effectivement cette idée aussi de cette espèce de générosité de donner sa propre création à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc je pense que c'est important aussi pour pouvoir lire et mieux connaître son travail d'artiste plus largement que dans ce qui est montré dans cette exposition.
Le désir peut-être de rendre la matière vivante en combinant ce qui est de l'ordre de l'installation et puis ce qui est de l'ordre de la performance, puisque donc c'est... je n'ai plus son nom, donc Benoît Cossé, donc qui viendra faire une performance sur les matériaux exposés.
Oui, alors c'est le résultat d'un travail d'un an mené avec lui, donc ce sera une recherche, on appelle ça une performance, parce qu'au final, on est dans quelque chose qui est un peu hors format spectacle. Hein. Ça va durer une quinzaine de minutes. Et c'est une recherche. Hein. Faut bien le prendre comme un... On montre la recherche qu'on est en train de faire. Il a travaillé sur une partition graphique que j'avais fait il y a déjà maintenant 6 ans, et qui est une matrice. J'aime beaucoup l'idée qu'une pièce, une œuvre, qu'elle soit sculpture, tissu, n'importe quoi, peut servir à être matrice à autre chose. Donc la question du langage, il est là, c'est-à-dire c'est un langage qu'on propose, qui donnerait naissance à un autre langage, qui lui-même donne naissance à un autre langage, c'est un peu infini. Donc j'avais fait une pièce qui est, on va dire, est considérée comme une partition graphique, et je lui ai demandé de l'interpréter. Alors... il n'a pas interprété les signes qu'il y avait sur cette partition en mouvement. Il y a une partie qui est manquante, auquel on n'a pas accès en tant que spectateur. C'est son interprétation à lui sonore des formes qui étaient sur la partition. Une fois qu'il a interprété dans sa tête, sur le papier, en ayant travaillé dans son coin, les formes en les transformant en son, ça a généré des états du corps, un mouvement. Donc ce sera une performance complètement silencieuse. Par contre, effectivement, ça, encore une fois, son interprétation, qui est un langage, va générer un autre langage, qui est le langage des empreintes sur la terre, qui va devenir une pièce, qui peut-être elle-même deviendra une matrice à autre chose. Voilà.
Donc l'idée, quelque part, que qu'une œuvre d'art, qu'un objet, qu'une production, qu'une création n'est jamais quelque chose de figé, mais que c'est la source d'inspiration ou qui alimente un imaginaire qui va lui-même produire quelque chose, qui alimentera un autre imaginaire qui lui-même Exactement. Produira quelque chose, et ça n'arrête jamais. Et c'est comme ça peut-être que l'art continue à exister.
Oui, alors j'espère que l'art continuera à exister, parce que Annie Lebrun disait que la poésie était la plus belle des catastrophes, dans le sens où c'est un événement parfois brutal, un événement soudain, mais la poésie, en tout cas l'art, est un espace normalement libre, sans frontières, complètement débridé, a priori, dans le meilleur des cas. Mais en ce qui me concerne, pour ce qui est de la partie créative de mon côté, c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas d'œuvre terminée dans mon travail. Ce sont que des fragments qui génèrent d'autres fragments, d'autres œuvres, et qu'il y a toujours cette continuité et surtout un potentiel à chaque fois de modification. Quand il y a une œuvre, elle est présentée ici, ce qui sera montré à la halle, sera montré de telle manière à la halle. Et peut-être que ce sera remontré ailleurs, différemment, par fragments ou en totalité, mais accompagné d'autres travaux qui vont, du coup, générer une transformation, forcément. Voilà.
Et donc, on pourra voir l'état actuel, la présence, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est l'état présent de cette création. Donc à partir du 7 octobre à 18h où aura lieu donc le vernissage avec Benoît Cossé qui dansera dessus, une prosodie.
Oui, prosodie. Alors j'aime bien dans les titres de mes pièces donner d'autres des noms qui viennent d'autres domaines, que ce soit la géologie, la littérature ou le cinéma. Et prosodie, c'est l'étude des variations sonores de la voix, pour comprendre le sentiment, comprendre si c'est de la colère, de la joie. Donc la prosodie, c'est ça. Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que la prosodie est sonore du fait de l'intonation de la voix, mais que la performance qu'on voit est complètement muette, dans le sens où il n'y a pas de son, il ne parle pas, il ne crie pas. Donc la prosodie, là, en l'occurrence, elle se situe ailleurs.
Toujours dans cet esprit, effectivement, d'ouverture, de laisser quelqu'un d'autre se réapproprier des éléments qu'elle a créés. On a lancé un partenariat pédagogique avec les lycées Lassollet de Saint-Marcellin, et en particulier avec une classe un bac pro, accompagné aussi par l'EGRAM, qui est un centre de création musicale basé à Lyon, et sous la coordination générale, on va dire, de l'IRCAM et du Centre Pompidou. Donc un projet qui mêle à la fois création plastique et sonore, et dans ces cadres spécifiques, les élèves, les lycéens seront invités à découvrir les œuvres de Matkoko, accompagnés pas tout le temps, mais aussi par l'artiste, et surtout avec l'objectif d'en choisir une des installations présentées à la halle, de l'interpréter avec des sons, donc à la fin de l'année, c'est un projet qui a lieu sur toute l'année scolaire, à la fin de l'année, guidé par un musicien choisi par l'EGRAM, Sébastien Hervier, ils vont créer un son, une bande son qui ne sera qu'une autre œuvre, une autre création née dans les sources, sont effectivement les œuvres de Matkoko. Donc il y a encore une fois et une réinterprétation, une relecture de ce que l'artiste a voulu présenter. Donc je trouve très intéressant et très pertinent ces projets, et surtout je l'espère, en tout cas, une super occasion pour ces jeunes d'approcher la création contemporaine différemment et vraiment de façon transversale, sans vraiment de frontières entre ce qui pourrait être plus classiquement appelé art plastique et puis musique et création sonore. Voilà.
Oui, il y a un souci quand les artistes viennent faire un travail sur le territoire, que ce ne soit pas juste une création, une représentation, un spectacle ou une exposition, mais qu'il y ait derrière aussi des projets de faire participer des habitants, des institutions, des écoles, différents lieux.
Ah oui, là, bah, ils seront non seulement participants, mais la classe, elle est littéralement, ils sont littéralement acteurs, voire ils jouent les rôles de créateurs, parce que voilà, que ce soit Matt Coco ou que ce soit voilà, que ce soit l'artiste plasticienne ou le musicien, ils sont là juste pour offrir des pistes, des créations. Après, c'est les jeunes qui produiront quelque chose, un enregistrement, un voilà, une bande son qui sera ensuite transmise, voilà, présentée à la fin de l'année. D'ailleurs, il y a des fortes chances qu'elle sera présentée pendant la nuit des musées à Beaubourg, à Paris. Donc, c'est quand même assez valorisant pour leur travail d'une année. Donc, voilà, on espère que on démarre lundi prochain, donc le 9 octobre. Donc, on espère que ces travails de longue durée, c'est pas toujours le cas sur des projets pédagogiques liés à des expos qui durent finalement 2-3 mois. Donc, on espère vraiment que les jeunes puissent s'approprier vraiment en plein de ce qu'ils auront vu, de ce qu'ils auront entendu, voilà, pour en faire autre chose, quelque chose à eux.
Oui, c'est des projets auxquels on est désormais habitué dans le domaine du spectacle vivant. Et je crois qu'on ne peut que se réjouir que dans les arts plastiques aussi, maintenant, les artistes qui viennent fassent bénéficier quelque part les jeunes du territoire de ce qu'ils font et de surtout de la vision qu'ils apportent sur le monde.
C'est pas nouveau. Non. Non, enfin, c'est pas nouveau, alors je saurais pas dater. Mais il y a une histoire de démocratisation de la culture et de démocratisation de l'art. Alors parfois c'est pas très bien fait, mais il se trouve qu'il y a des projets assez intelligents depuis un moment qui permet, qui donne droit à ce regard que porte un spectateur pas forcément aguerri et lui donner place à cette dialectique, en fait, à ce dialogue qu'il y a entre une œuvre quelle qu'elle soit et lui. Et ça, c'est intéressant. Mais encore faut-il que ce soit bien fait.
Ce que je trouve intéressant dans ces cas-là, c'est que ça, c'est tout à fait cohérent avec la proposition qui est faite dans l'exposition. C'est-à-dire que la classe des lycéens, ce qu'ils produiront, aura exactement la même valeur, ce que le danseur Benoît Cossé aura pu faire les soirs de vernissage, ou que Yann Lévy aura fait dans sa vidéo qui est présentée au cœur de l'exposition. Donc voilà, c'est vraiment, ce n'est pas juste une entrée sur l'exposition, c'est faire partie littéralement et sur une durée qui est plus longue que celle de l'exposition. Voilà.
Merci Julia.
Bah, de rien.
Merci Matt Coco.
Merci.